Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Première édition de la semaine aujourd'hui. Édition spéciale même, puisque nous recevons un invité, une fois n'est pas coutume. Il s'agit de Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien et ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Il répondra à toutes vos questions. À 2 mois de l'élection présidentielle, les inquiétudes montent en Côte d'Ivoire. Des manifestations contre une troisième candidature d'Alassane Ouattara ont déjà fait plusieurs morts et le rejet probable des candidatures de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro interroge sur l'inclusivité de cette élection. Alors pour parler de tous ces sujets, nous recevrons donc Mamadou Touré dans quelques instants. Mais d'abord, comme de tradition, on se tourne vers le répondeur d'Africa Radio pour écouter une sélection de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour Madame Hartmann. Bonjour les amis de Judéa, le peuple africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo et les RCK. Nous rendons hommage à notre grand Katcher qui est mort à la République démocratique du Congo. Nous savons que c'était un albinos, mais c'était pas le souci du peuple congolais. Nous commémorons sa mort parce qu'il a fait, il avait fait une association pour rassembler tous les albinos de la République démocratique du Congo. Vraiment, nous demandons à tous les peuples congolais de rendre hommage à cet homme qui était un grand catcheur. Il est parti, mais sa mémoire reste toujours parce que son association aussi pour apporter l'aide à tous les habitants de la République démocratique du Congo demeure encore et nous soutenons toujours cette activité que son association est toujours de l'avant. Merci à Ikomopongi, résistant combattant RCK.
Bonjour, je m'adresse à les braves militaires maliens. Mais mes frères, je voulais vous dire, prenez votre destin en main. Allez-y jusqu'au bout. Moi, à mon avis, vous devrez faire 5 ans d'emblée pour nettoyer tout et nettoyer même. Merci, du courage. Bravo, bravo, bravo l'armée malienne.
Bonjour Stéphane Hartmann, la belle voix de Radio Africa, la voix qui nous console quand on a des soucis. Mais je vais seulement parler de la rentrée scolaire. Donc on a des rentrées scolaires et la rentrée de Corona. Surtout moi, je me fais des soucis pour les enfants. Mais comme je dis que les enfants sont des anges, les enfants sont des innocents. Coronavirus, il ne va pas toucher les enfants. Donc comme Dieu a dit, le monde appartient à ce qui ressemble aux enfants. Donc les parents, n'ayez pas crainte, n'ayez pas de soucis. Laissez les enfants aller à l'école, ils seront protégés par Dieu. Merci beaucoup, c'est James Bond, Zikono Poutou, maire chroniqueur de Paris. Je vous aime, que le bon Dieu vous bénisse. Amen.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Précisons tout de même qu'au-delà de Dieu, les gestes barrières et le masque restent aussi indispensables pour se protéger du Covid-19. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, édition spéciale, nous recevons Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien et ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, pour faire le point justement sur la situation politique en Côte d'Ivoire à 2 mois de l'élection présidentielle. Mamadou Touré, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous. Alors vous deviez être en plateau, malheureusement un impondérable nous oblige à vous prendre par téléphone. Merci quand même de vous prêter au jeu des questions-réponses avec les auditeurs. Ils sont nombreux, je ne vous cache rien, vouloir vous poser des questions. Alors je vous demanderai aux uns et aux autres d'être les plus brefs possibles afin de balayer un maximum de sujets. Et je vais me permettre, cher Mamadou Touré, de poser la première question. Une délégation importante du gouvernement ivoirien dont vous faites partie se trouve actuellement en France, à Paris. Mamadou Touré, est-ce qu'il s'agit d'une opération séduction visant à rassurer vos partenaires internationaux à 2 mois de la présidentielle ?
Ah non, 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 pas du tout. Vous savez qu'actuellement, nous avons eu donc, des vacances au niveau gouvernemental. Donc, certains membres du gouvernement sont en mission dans le cadre de leur travail, hein, de leur mission ministérielle. D'autres ont pris 2-3 jours. Voilà. Et donc, en ce qui nous concerne, nous profitons donc de notre présence ici en France pour justement nous prêter au jeu du débat afin d'éclairer l'opinion sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
Et là, on va donner tout de suite la parole aux auditeurs. 33 1 55 07 58 00. On commence par écouter Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour.
Bonjour, bonjour madame.
Bonjour Jean-Paul. Alors vous allez avoir, je ne sais pas si c'est l'honneur ou le privilège, mais de poser la question que tout le monde se pose. Vous voulez poser la question sur la Constitution et la légalité de la candidature d'Alassane Ouattara, c'est bien ça?
Oui madame.
On vous écoute.
Je vous remercie pour l'honneur que vous me faites. Et c'est la première fois que j'interviens sur votre radio. Voilà. Quand je parcours... Déjà, je remercie aussi Monsieur le ministre, si nous avons la chance qu'il soit aussi ministre de la Jeunesse et aussi membre du gouvernement. D'abord, je dis bonjour Monsieur le ministre.
Il voilà. Vous entend.
Je suis ivoirien, je suis résident en France, mais j'ai pas eu la chance ou l'occasion de participer au vote des différentes constitutions en Côte d'Ivoire, celle de 2000 et celle de 2016. Je reprends dans celle de 2000, il y a des articles. La Constitution a été créée, faite plutôt, le 1er août 2000. Et dans celle-là, il y a l'article 35 qui nous dit qu'un président de la République en Côte d'Ivoire est élu pour 5 ans et éligible.
Alors, allons droit au but, Jean-Paul, parce que le chronomètre, voilà. Sinon, on va empêcher.
Voilà. Donc, j'aimerais savoir, poser ma question, c'est que je vais savoir demander à Monsieur le ministre quel est l'article. Qui dit que M. le Président de la République, M. Alassane Ouattara, peut être candidat pour un troisième mandat. J'aimerais savoir quel est l'article qu'on me dise aujourd'hui pour que je parte rassurer.
C'est très clair, Jean-Paul. Effectivement, Mamadou Touré, hein, c'est la question que beaucoup se posent. Alors que la précédente constitution limitait le mandat à 2 et que le RHDP avait fait la promotion... De cette constitution en disant que finalement il y avait une continuité avec les anciens articles. Comment justifiez-vous la troisième candidature d'Alassane Ouattara?
Déjà, je voudrais remercier Jean-Paul pour sa question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une nouvelle constitution. Vous avez dans les différentes procédures, vous avez l'option de la révision donc de la constitution. Et cette révision, en général, touche quelques points de la Constitution, donc ne remet pas en cause donc la Constitution existante, ou bien vous avez l'option de faire une nouvelle Constitution. Dans le cas d'espèce, après donc la Constitution de 2000, donc du 1er août 2000, qui est la Constitution de la Deuxième République, en 2016, nous avons pris l'option d'une nouvelle Constitution, et donc nous sommes dans la Troisième République. Et c'est parce que nous avons une nouvelle Constitution, donc qui est établi donc en son article 55 que les candidats donc à l'élection présidentielle en plus donc d'être ivoirien à titre exclusif et toutes les conditions qui ont été énumérées, ces candidats ont 2 mandats et donc ces 2 mandats courent à partir donc de la mise en œuvre donc de cette nouvelle constitution et c'est ce qui permet au président Alassane Ouattara.
C'est ce qu'on a vu au Cameroun, au Tchad, à multiples reprises, où la modification de la Constitution justifiait, effectivement, monsieur le ministre, une nouvelle candidature. Mais cependant, est-ce qu'il n'y a pas aussi un fossé, finalement, entre l'esprit qui veut qu'on limite le nombre de mandats et qu'on favorise l'alternance et cette nouvelle candidature? Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus, une contradiction?
Mais l'alternance n'est pas forcément liée à la limitation du mandat. Je peux vous donner un exemple au Sénégal, qui est un cas similaire. Le président Ouad, donc, a fait une nouvelle constitution, si vous vous rappelez très bien. Il y a eu donc un débat, des polémiques. Finalement, le Conseil constitutionnel a validé ce changement constitutionnel et ce qui a permis au président Ouad d'être candidat pour une troisième fois. Le président Ouad a été battu dans les urnes par le président Macky Sall. Donc, la question de l'alternance n'est pas forcément liée à la limitation du mandat. L'alternance, elle se crée dans les urnes à travers le vote des concitoyens.
C'est très clair. Merci Mamadou Touré, restez à l'écoute. On va écouter une autre question. On va écouter Camara. Camara, bonjour.
Comment allez-vous ?
Bonjour Camara, ça va très bien et vous ?
Ça va.
Alors n'hésitez pas à aller poser votre question, on vous écoute.
Donc moi je voulais juste, c'est-à-dire poser la question au ministre. Mmh. Je sais ce qu'il va me répondre et je sais ce qu'il va me répondre aussi, c'est ma réponse à moi. Je sais que c'est ça, c'est la bonne réponse. Mais je voulais seulement qu'il dise aux Ivoiriens et aux non-Ivoiriens pour qu'ils sachent que le président Ouattara a droit à une nouvel mandat sous la Troisième République. Parce que si on dit révision et modification, c'est deux choses différentes. Mmh. C'est à travers de la modification que Bédié est candidat. On a sauté la limitation des mandats. Mmh. C'est à partir de la limite d'âge. C'est à partir de la modification de la constitution, une nouvelle constitution qui a permis de nommer un vice-président qui est Dalier Kablan Dinka, qui a démissionné, ça ne fait même pas longtemps. Vous voyez? Donc, allons-y aux urnes, laissez les Ivoiriens tranquilles, ils ont tellement souffert.
C'était pas une question, vraiment, si j'ai compris, Camara. Vous soulignez le fait que le président avait le droit de se représenter, c'est bien ça?
Ah, ben, il a le plein droit, même faire le deuxième mandat.
Vous l'avez dit, Camara. Il n'y a pas de souci, on va essayer d'être plus dans l'esprit. Question, hein, si vous voulez bien, chers auditeurs. Hein. Pour que Mamadou Touré puisse le plus possible s'exprimer. Alors justement, j'ai une question depuis Abidjan, Cocody, pour vous, monsieur le ministre. C'est Innocent qui me dit bonjour. Il voulait savoir, il a une question sur l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Quel est le projet réel et non virtuel pour la jeunesse en Côte d'Ivoire, Mamadou Touré?
Alors, je vais rassurer Innocent, puisqu'il est à Abidjan, il n'y a pas de projet virtuel. Il sait très bien que depuis bientôt 2 ans, nous avons lancé le programme social du gouvernement, donc dans son volet insertion des jeunes, autour donc de 4 composantes. La première composante, c'est le développement des compétences qui permet de renforcer la capacité donc des jeunes à travers des stages, l'apprentissage. Et nous avons pour cette année près de 5 000 jeunes qui sont dans un programme d'apprentissage et qui au bout donc de 6 mois ou 1 d'apprentissage seront opérationnels. Vous avez des programmes donc de stage qui permettent à des jeunes de valider leur diplôme, des programmes donc de mise, ce que nous appelons les PAE, le programme d'aide à l'embauche, des jeunes qui sont mis en stage de qualification pendant 1 an. Et au bout d'une année, ils ont leur première année d'expérience professionnelle, ils sont soit embauchés dans l'entreprise ou ils vont ailleurs faire prévaloir leurs compétences. Et selon le rapport de la Banque mondiale, dans la mise en œuvre de ce programme, dans le cadre du PGDEC, 67% des jeunes que nous avons mis en apprentissage, en stage de qualification ont été gardés par les entreprises. Mmh. Et Innocent doit savoir que depuis le mois de janvier, ce sont des milliers de jeunes ivoiriens qui sont financés par le gouvernement ivoirien. Nous avons lancé le programme Agir 3 pour les jeunes, avec près de 10 milliards de francs CFA qui ont permis à 21 000 jeunes d'avoir un financement. En cours actuellement, le dernier délai, c'est dans 2 semaines. Nous avons relancé encore donc les programmes d'inscription des jeunes. C'est encore 10 autres milliards de francs CFA qui vont permettre de financer près de 23 000 jeunes. À côté de cela, moi-même, j'ai remis, il y a 2 semaines, pour près de 765 millions de francs CFA, donc des chèques donc à des jeunes entrepreneurs ivoiriens qui ont des start-up, qui ont un fort potentiel en termes donc d'activité de création d'emplois. Donc il n'y a pas de virtuel. Bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je ne dis pas que tout est parfait, mais nous avons aujourd'hui un programme cohérent qui nous permet donc d'obtenir donc jour après jour des résultats avec la transformation donc de la vie de certains jeunes dans notre pays.
Merci Mamadou Touré. On reviendra sur la question de la jeunesse. On va même rester sur la question de la jeunesse, à vrai dire. Mais Youssef vous reposera une question également sur la jeunesse. On va parler d'une autre jeunesse là avec Abou, une jeunesse un peu plus désœuvrée. Alors Abou, je vais vous demander de couper votre radio, s'il vous plaît, ou votre haut-parleur. Voilà, une jeunesse plutôt désœuvrée, ces jeunes délinquants, ces jeunes livrés, eux-mêmes qu'on appelle les microbes. C'est bien ça, Abou, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous écoute, Abou. Oui. Allez-y.
Oui, Touré, bonjour, monsieur Mamadou Touré.
Il vous écoute.
On ne sait pas, on peut plus se reconnaître, parce que le jour que, en 2010, l'événement... à la République, entre les jeunesses de RADPP, comment on appelle, LMP, on les avait pris, on les a envoyés au 18e. Vous êtes venu à Madou Djabi, Mamadou Diaby.
Bon, on va éviter on va poser votre question à bout, qu'on aille droit au but, s'il vous plaît.
Ma question était, M. Mamadou, ça nous fait 10 ans à propos de la microbe en Côte d'Ivoire. Je me rappelle très bien, à mon temps, les années 90, où le président Ouattara a été élu le premier ministre. Il avait fait une déclaration au niveau de la nation en disant qu'il n'y a plus de touristes qui viennent en Côte d'Ivoire. Au moins, c'était 400 000 touristes qui descendaient en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a plus de touristes à cause des agressions, des vols, des
La sécurité,
c'est
ce que vous voulez dire.
Il avait donné instruction à la PJ et puis la SAVAC en disant que quand on tue un jeune délinquant, il avait 50 000. Après, c'est devenu 100 000. Après, c'est devenu 150 000, 200 000, 200 000, 300 000. En tout cas, il y a eu des bavures à Port-Bouy. Et puis, la population, les étudiants, ils sont tués 6 étudiants au niveau de Port-Bouy. Après ça, ils sont arrêtés, ça. Je me demande, jusqu'à aujourd'hui, le président Ouattara a été élu président de la République. Depuis 2010, jusqu'à aujourd'hui, les microbes, et vous n'êtes pas capable pour éradiquer le problème des microbes en Côte d'Ivoire, parce qu'après midi, on agresse.
On a bien compris. Abou, je vous interromps pour aller droit au but, mon cher Abou, mais on a bien compris. Alors vous estimez que le gouvernement n'a rien fait depuis 10 ans pour éradiquer le phénomène des microbes. Mamadou Touré, effectivement, on en parle régulièrement. Et on en parle un peu plus dernièrement, puisque selon Amnesty International, ces jeunes seraient utilisés par le gouvernement pour semer le trouble lors des manifestations de l'opposition.
Les accusations d'Amnesty International sont sans fondement et sont fantaisistes, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus.
Vous connaissez qu'Amnesty International est une ONG plutôt à la crédibilité internationale, justement.
Ah non, sa crédibilité peut être sujet à caution sur certains sujets. Voilà, donc je dis que sur ce point, malheureusement, Amnesty International est totalement à côté de la plaque. Sur le phénomène même des microbes, je vais prendre à bout au mot. Effectivement, il y a quelques années, notamment il y a 2 ans, 3 ans, nous avions un phénomène qui était très, très alarmant. Et c'était un phénomène très urbain, comme ça se passe dans beaucoup de grandes villes urbaines dans le monde, d'agressions, de délinquance, etc., etc. Mais ce qui est important de noter, c'est que le gouvernement a pris des mesures. Et ces mesures ont permis donc d'éradiquer ou de diminuer fortement le phénomène donc de ces enfants en conflit avec la loi. Quelles sont ces mesures de façon concrète? Il y a eu l'opération Épervier qui a été lancée par la police nationale, qui a permis donc des arrestations. Il y a eu donc cette opération qui a permis de démanteler des fumoirs. Madame, des fumoirs, ce sont des endroits où ces jeunes-là partaient donc consommer de la drogue avant donc de passer donc à l'acte. Et ensuite, le gouvernement n'a pas fait que de la répression, en plus de l'arrestation et du démantèlement donc des fumoirs et de toutes les personnes qui entretenaient donc ce trafic de drogue, etc. Le gouvernement a lancé un programme de resocialisation de certains enfants qui sont retrouvés donc appelés microbes. Et cela a permis, dans le centre de Brembresso, donc c'est plusieurs centaines donc de ces enfants-là qui ont été pris en main par le gouvernement dans le cadre du programme du service civique, qui ont été resocialisés, à qui on a pris un métier et qui sont installés aujourd'hui, qui font leur travail. Et Abou pourra être suffisamment honnête pour reconnaître que depuis lors, le phénomène a fortement baissé. Et il ne se passait pas un seul jour il y a quelques années sans qu'il y ait d'agression à Bobo, à Yopougon, etc., en plein jour comme des nuits. Mais aujourd'hui, on peut honnêtement reconnaître que les efforts du gouvernement ont porté leurs fruits et que ce phénomène a fortement baissé. Mais la lutte continue.
La lutte continue.
Contre la délinquance, contre... les agressions continuent.
On va demander, merci beaucoup Mamadou, restez à l'écoute. Youssef, bonjour, du côté d'Abidjan.
Allô ?
Oui, bonjour Youssef, bienvenue.
Oui, bonjour Africa Radio, bonjour Stéphanie.
Bonjour Youssef, alors voilà, on évoquait les microbes à l'instant avec Mamadou Touré, qui disait que selon lui, l'insécurité avait diminué. Vous aussi, vous voulez parler de la jeunesse, je crois, avoir une question dessus en tout cas.
Oui, bien sûr, puisque c'est notre ministre. Je lui dis vraiment bonjour et c'est un talentueux ministre.
Il vous entend.
J'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Concernant effectivement la jeunesse, que vous savez, l'œuvre humaine n'est pas parfaite et il y a toujours, comment on appelle les choses, des petits réglages, des petites choses à faire. Concernant effectivement la jeunesse, c'est vrai en Côte d'Ivoire, la jeunesse, plus 60% est portée franchement à la politique. C'est vrai, nous avons des convictions politiques. Mais nous demandons au gouvernement, nous demandons au monsieur le ministre, si jamais ils sont portés encore au pouvoir, qu'est-ce qu'ils peuvent, quel est le programme pour l'insertion des jeunes? Puisque déjà, avec cette histoire de microbes, nous avons des partenaires qui veulent descendre à Abidjan.
Le ministre a appelé tout à l'heure de nombreux programmes pour l'emploi des jeunes qui avaient été faits, des chèques qui avaient été donnés aux start-up. Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui ont bénéficié de ces programmes?
Bon, franchement dit, je pense que je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Et encore, je voulais savoir, ils ont lancé un programme, le gouvernement a lancé un programme de FACI, c'est-à-dire que le fonds mis à la disposition à propos de COVID-19. Ben, jusqu'à présent, on s'inscrit. Moi-même, j'ai fait l'inscription étant même à l'extérieur. J'ai même mis ma famille, j'ai mobilisé tout parce que les gens critiquaient le gouvernement en disant que non, jusqu'à présent, rien n'a encore fait. Ben, on a fait l'inscription jusqu'à présent. Personne n'a bénéficié de ces fonds.
C'est un fonds, c'était un fonds pour quoi précisément? Pour les entreprises, Youssef?
Oui, les entreprises informelles, ouais, travailleurs d'accord. informels et tout.
Ok. Mamadou Touré, alors vous avez déjà évoqué pas mal, énuméré pas mal de mesures tout à l'heure, on ne va peut-être pas y revenir. Peut-être sur cette question du fonds Covid précisément. Oui. Je ne sais pas si c'est votre ministère qui s'en occupe.
Oui, c'est moi. Sur le fonds du secteur formel, ce fonds au niveau opérationnel est géré par mon département, notamment l'agence emploi jeunes. Alors, je voulais lui dire que nous avons à ce jour près de 16 000 acteurs du secteur informel qui ont bénéficié de ce fonds pour un montant d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Pour la phase, pour la première phase de ce fonds, c'est à peu près 10 milliards de francs CFA qui sont donc en cours donc, de décaissement pour dans les acteurs du secteur informel. Mais ce fonds, il est doté globalement d'un montant de 100 milliards de francs CFA. Donc, s'il a pu faire son inscription, comme il a dit, c'est bien. Les procédures sont telles qu'il faut quand même procéder à beaucoup de vérifications, parce que vous savez que le secteur informel, par essence, est un secteur où justement il faut beaucoup de contrôle pour s'assurer que toutes les déclarations qui sont faites sont conformes donc, à des activités économiques réalisées. Et donc cela prend un peu de temps, mais je peux lui rassurer que le fonds est opérationnel et que déjà 16 000 de nos concitoyens ont bénéficié donc de ce fonds. Et ça va se poursuivre.
Merci Mamadou Touré. Une petite question qui nous vient de Boaké, c'est Salomon. Plusieurs questions, mais alors on va aller droit au but. Alors Salomon se demande, est-ce que le président Ouattara est candidat à cause de la mort d'Amadou Gon Coulibaly ou parce que Bédié est candidat? Et il ajoute, Salomon, pourquoi ne pas laisser Laurent Gbagbo et Guillaume Soro se présenter pour apaiser tous les Ivoiriens? Est-ce qu'on peut s'interroger sur le manque d'inclusivité de cette présidentielle?
Ça fait trois questions. Je vais essayer d'aller rapidement et de répondre une à une. Alors, pourquoi le président Ouattara est candidat? Le président Ouattara est candidat pour la simple raison que nous avions choisi le premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP. Et à un mois de la date limite de dépôt des candidatures, notre candidat est décédé. C'est quand même une situation exceptionnelle, inédite. Et une élection présidentielle ne se prépare pas en un mois. Au niveau du RHDP, les cadres que nous sommes et l'ensemble des militants à l'unanimité avons estimé que pour relever donc le défi donc de la cohésion, de l'union et assurer notre victoire en 2020, il nous fallait donc choisir le président Ouattara qui, dans tous les cas, constitutionnellement, pourrait être candidat. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons demandé, sollicité donc la candidature du président.
Alors, certains s'étonnent qu'au sein du RHDP, il n'y ait pas de cadre suffisant. C'est notamment le cas de Paul, depuis le Togo, qui nous dit, mis à part Ado, n'y a-t-il pas un cadre du RHDP pour défendre les couleurs du parti?
Non, le débat ne se pose pas en ces termes. Nous avons beaucoup de cadres compétents. Mais maintenant, vous savez qu'une élection présidentielle, ce n'est pas seulement de la compétence. Il y a la capacité aussi à mobiliser et à unir autour de soi. Prenez l'exemple en France. On a eu quand même des élections présidentielles il y a quelques années. Les primaires, donc à gauche comme à droite, les Républicains et le PS, il y avait beaucoup de candidats qui étaient présidentiables. Mais le manque d'union au sein de ces formations politiques, elles ont fait perdre une élection présidentielle.
Donc le RHDP est désuni.
Voilà, nous disons aujourd'hui que à un mois donc du dépôt des candidatures, celui qui peut faire l'unité, l'union à notre sein, en vue donc de gagner ces élections, c'est le président Alassane Ouattara. On aurait sorti des cadres que on aurait pu être confronté à des problèmes donc de cohésion à notre sein. Et donc nous avons décidé, et tous les cadres compris, nous avons tous décidé, et c'est à l'unanimité des cadres et des militants que le choix s'est porté donc sur le président Alassane Ouattara.
C'est très clair. Il ne reste malheureusement que 2 minutes, Mamadou Touré, sur le manque d'inclusivité de la prochaine présidentielle, le rejet des candidatures, rejet probable par le Conseil constitutionnel des candidatures de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que le gouvernement, l'État, fasse un geste pour justement apaiser les Ivoiriens, pour citer notre auditeur?
Alors moi, sur la question, généralement, je n'aime pas émettre d'avis parce que quand un processus électoral est lancé et que nous avons des institutions qui fonctionnent normalement, notamment la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel, etc., il faut laisser ces institutions faire leur travail. Il ne faut pas préjuger donc des résultats à l'issue de leur délibération. Ceci étant, la démocratie, c'est aussi l'état de droit. Et dans un état de droit, il y a des règles qu'il faut respecter. Et je voudrais même dire d'ailleurs à ceux qui estiment que le RHDP aurait pu trouver d'autres candidats en dehors du président Ouattara pour porter donc le flambeau, mais on peut leur retourner les mêmes questions. Si, objectivement, par la loi et par les situations, Laurent Gbagbo et autres sont empêchés, mais ils ont des grandes formations politiques, qu'est-ce qui les empêcherait donc à choisir d'autres candidats qui rempliraient donc les conditions pour aller à ces élections présidentielles? Il ne faut pas qu'on soit... on est insuffisant dans l'analyse. Et je trouve que souvent, on n'est pas suffisamment objectif dans l'analyse. Ce qui est vrai pour nous, au RHDP, doit être vrai aussi pour l'opposition.
C'est très clair. Il ne nous reste pas le temps de prendre d'autres auditeurs, mais alors je dois faire l'écho de quelques réactions, monsieur le ministre. Il y a Nestor et Coné qui disent qu'il ne faut pas comparer le Sénégal avec le cas de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal est un pays plus démocratique. Et puis il y a Idriss qui se demandait quelles mesures vous prendrez contre les activistes pro-Soro qui sont en France. Je pense que cela n'est pas notre ressort, j'imagine.
Non, ce n'est pas notre ressort. Hein.
Bon. Voilà. On remercie Mamadou Touré d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes un porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, ministre pour la promotion de la jeunesse et l'emploi des jeunes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée, Mamadou Touré.
Merci beaucoup, à bientôt.
À très bientôt, merci à vous et merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur notre compte WhatsApp, mais aussi à notre page Facebook, facebook.com/journal des auditeurs. On se donne rendez-vous demain, mardi, pour une nouvelle édition du JDA. Demain, nous ferons le point sur l'actualité en République démocratique du Congo et ses demandes insistantes de réforme des élections. Prenez soin de vous à l'écoute d'Africa Radio. À demain.